Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Oui, notre Dieu est incomparable. Notre Dieu est tellement patient. Nous venons de le chanter et nous allons le méditer dans quelques minutes. Notre Dieu est tellement puissant, toujours à nos côtés. À Nancy, à Mulhouse, à Ninive, il l'a été, et partout. Nous poursuivons ce matin notre lecture du livre du prophète Jonas. Bienvenue au nouveau, je vous invite à raccrocher les wagons et à prendre le bateau en route, si vous acceptez les mélanges d'images. Jonas est bien connu, c'est un des 12 prophètes appelés petits prophètes, parce que leur livre était plus petit que le grand livre d'Ésaïe, ou de Jérémie, ou d'Ézéchiel. Les 12 petits prophètes, assez peu connus, Jonas nettement plus que les autres, et nous le lisons depuis quelques semaines ensemble. Chapitre 1, Jonas s'enfuit sur le bateau, si la diapo suivante veut nous le rappeler, en partant à l'ouest parce que Dieu lui a dit d'aller à l'est. Un prophète désobéissant, un prophète qui refuse la mission qui lui est donnée parce que la grâce lui est insupportable. Comment Dieu pourrait-il faire du bien à des gens aussi mauvais que les Ninivites? Chapitre 2, Jonas se retrouve dans le poisson que Dieu lui offre pour le sauver au moment où il est jeté par-dessus bord pour que la tempête se calme. Le poisson va le ramener sur le rivage et entre-temps, Jonas aura prié en citant beaucoup de psaumes. Aujourd'hui, nous allons lire Jonas chapitre 3, quand le prophète arrive enfin, accepte enfin d'aller à Ninive. Et un prochain dimanche, nous lirons Jonas chapitre 4, quand le prophète boude sous un ricin, parce que Dieu a vraiment fait du bien. Ça va venir, Jonas 4. Non, il ne veut pas. Problème technique, ce n'est pas grave. Parce que Dieu a fait du bien aux Ninivites, et c'est insupportable à Jonas. Que Dieu fasse du bien à des gens que lui considérait tellement médiocres, non, tellement mauvais, ça lui est insupportable. Et ce qui nous peut nous faire rêver, une réponse à la proclamation de la parole de Dieu, une réponse extraordinaire, ce qui nous peut nous faire rêver, qu'aucun d'entre nous ici n'a vu de ses yeux. Jonas a trouvé ça insupportable au point de vouloir la mort. Voilà, Jonas chapitre 3. Je lis le texte qui va s'afficher au mur dans la traduction moderne dite « Parole de vie ». Une deuxième fois, le Seigneur dit à Jonas, « Debout, va à Ninive, la grande ville. Annonce-lui le message que je te donne. » Alors, Jonas se lève. Il part, mais cette fois, il va à Ninive, comme le Seigneur l'a demandé. Ninive est une ville extraordinairement grande. Il faut 3 jours pour la traverser. Jonas entre dans la ville. Il marche pendant un jour entier. Il annonce aux gens, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Aussitôt, les gens de Ninive croient à la parole de Dieu. Ils décident de ne rien manger. Tous mettent des habits de deuil, les riches comme les pauvres. Le roi de Ninive apprend la nouvelle. Il se lève de son siège. Il enlève son habit royal. Il met un habit de deuil. Il s'assoit sur de la cendre. Puis, le roi et ses ministres donnent cet ordre. Criez dans la ville ces paroles. Il est interdit aux habitants et aux bêtes, bœufs, moutons et chèvres, de manger et de boire. Tout le monde doit mettre des habits de deuil, les gens et les bêtes. Chacun doit crier vers Dieu de toutes ses forces. Chacun doit abandonner sa mauvaise conduite et arrêter les actions violentes qu'il fait. Qui sait ? Dieu changera peut-être d'avis. Il abandonnera sa colère contre nous et nous ne mourrons pas. Dieu voit leurs efforts pour abandonner leur mauvaise conduite. Il change d'avis. Il regrette le mal qu'il voulait leur faire et il ne le fait pas. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Le dernier verset en a surpris plus d'un. Nous y arriverons dans quelques minutes. Dieu est patient. Dieu est puissant. La repentance et la foi nous permettent d'aller vers lui. Voilà les trois points tout simples que je vous propose en méditant ce texte quelques minutes. Dieu est patient. On peut repasser la diapo suivante où j'ai simplement souligné une expression qui nous fait penser à la patience de Dieu. Dieu, une deuxième fois, parle à Jonas. Il lui donne ce qu'on appelle une deuxième chance. Mais ce n'est qu'une expression. En fait, il en a eu beaucoup plus que deux, Jonas. Et moi aussi. La deuxième chance est plus. On va retrouver la patience de Dieu au chapitre 4 la prochaine fois. Quand Dieu continue à vouloir éclairer son prophète qui boude sur la colline. Et Dieu va encore prendre du temps avec Jonas et l'aider à vivre quelques étapes dans sa vie, lui qui a tellement de mal à se réjouir devant le bien que Dieu fait à des personnes que lui, Jonas, considère comme trop méchantes pour bénéficier du bien que Dieu peut faire. Dieu est patient. Dieu l'a toujours été. Je citerai deux grands exemples historiquement très connus. Le peuple d'Israël, 40 ans dans le désert. Ils étaient fatigants. Hein ? Ils étaient incroyables. Est-ce qu'on a le droit de le dire ? Oui, si on se reconnaît en eux. On a le droit, et c'est même une lecture juste, de prendre le peuple d'Israël comme exemple. C'est clairement dit par l'apôtre Paul quand il écrit à l'église de Corinthe. Tout cela leur est arrivé pour nous servir d'exemple. Et il n'est pas faux, devant certains épisodes des 40 années dans le désert, d'être surpris, allez j'y vais, agacé, devant ce peuple qui quand même est fatigant, pourvu que nous nous reconnaissions. Et qu'est-ce que cela nous dit ? Que le peuple d'Israël était déjà un peuple qui était vraiment difficile à conduire ? Oui, mais pas seulement. Cela nous dit, et c'est le thème de mon premier point, surtout que Dieu est patient. Il leur a donné la manne les jours, ou plutôt les lendemains des jours où ils étaient sages ? Non. Il y aurait des périodes gravement dangereuse. Non, il leur a donné la manne tous les jours et deux fois la veille de sabbat parce qu'ils n'avaient pas le sabbat. Dieu est patient, très patient. Deuxième exemple historique, les disciples. Il y en avait de toutes sortes. Il n'était que 12, mais il y en avait de toutes sortes chez les disciples. Entre les bouillants et les intellectuels, entre ceux du nord et ceux du sud, il y en avait de toutes sortes. Et ils avaient du mal à suivre Jésus. Et Jésus leur a dit plusieurs fois, « Jusqu'à quand, vous, supporterai-je ?» Jésus a dit que c'était fatigant d'avoir des gens si lents à croire, si lents à chasser les mauvais penchants de leur cœur. Une des questions qu'ils se sont plusieurs fois posées était la suivante, lequel est le plus grand ? Quelle est la plus belle église ? Nancy ou Mulhouse ? Quel est le plus beau projet d'église ? Montpellier ou Nîmes ? Ils ont récidivé à des moments extrêmement solennels lors desquels Jésus venait de leur parler de sa mort. Et eux, ils se demandent, qui est le plus grand ? Un des moments où il se pose la question, vous vous souvenez probablement, c'est dans la chambre haute, au moment où ils vivent le dernier repas avec Jésus. Et ils sont tellement habités par cette question qu'ils oublient quoi ? Les convenances de l'époque de laver les pieds à ceux qui sont arrivés. Et Jésus va le faire. Parce qu'ils étaient tellement occupés à se demander qui est le plus beau, qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils avaient à faire. Les disciples ont été lents à croire, lents à repousser leurs mauvais penchants, lents à comprendre que la grandeur de Jésus-Christ, du Messie, n'était pas visible, premièrement, n'était pas politique. Et chaque fois qu'il leur a parlé de sa mort, ils n'y comprenaient plus rien. Et vous me voyez venir, est-ce qu'on a le droit d'être triste devant les disciples qui étaient lents à croire, lents à comprendre, lents à gagner du terrain contre le mal ? Oui, pourvu que on se reconnaisse. Je suis lent à croire beaucoup de choses qu'on a chantées, qui nous ont été rappelées ce matin. Donc, je suis lent à vraiment mettre Dieu en premier dans ma vie. C'est un des mots qui définit le défi de tout disciple, je pense. Vraiment. Il y a beaucoup de choses qu'on fait, mais il y a beaucoup de choses qu'on devrait faire nettement plus réellement. Oui, encore aujourd'hui, Dieu est patient et nous donne tellement souvent une deuxième chance qu'on est loin du deuxième cas. Et il redonne et redonne et redonne des occasions où il nous tend la main pour que nous croyions mieux, que nous chassions le mal mieux, que nous apprenions à plus et mieux faire du ménage dans nos vies. Combien de fois, au moment de la Sainte Cène que nous allons prendre, le repas que nous allons prendre dans quelques minutes, j'ai redécidé devant Dieu d'être plus ferme dans tel domaine de ma vie. Est-ce que c'était la dernière fois où je lui ai dit ? Non. Parce que Dieu est un Dieu patient, et parce que j'ai mes lenteurs, l'histoire se répète. Le Saint-Esprit est celui qui veut nous transformer. Dieu est patient. Et il nous faut le bénir et comprendre à quel point nous pouvons continuer à nous appuyer sur lui. Si Dieu n'était pas patient, je ne serais pas là. Et ce n'est pas une figure de style, ce n'est pas pour faire bien, ce n'est pas pour que vous m'écoutiez tout à coup un peu plus. C'est très, très évident. Certains sourient, vous avez peut-être la bonne idée de penser à vous. Trois petits points. Ça marche. Deuxième grand thème de notre texte, Dieu est puissant. Deuxième diapo, qui nous rappelle deux, trois détails de cette journée extraordinaire. Jonas a enfin accepté de se lever et d'aller du bon côté, d'aller à Ninive. Et il va marcher, nous dit le texte, pendant un jour entier, en annonçant aux gens, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Si vous voulez apprendre par cœur tout ce que l'on sait des discours de Jonas, vous devriez y arriver. Il n'y a pas de prophétie dans tous les prophètes de la Bible plus courte que celle-ci. Dans tout le livre de Jonas, on n'a pas plus que ces 6 mots en français. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Plus court, si je dis plus court, tu meurs, Jonas va être content. Plus court, c'est dur. Plus court, c'est dur. Et pourquoi je vous propose comme thème de méditation « Dieu est puissant » ? Mais oui, incroyable, prédication incroyablement courte, de la part d'un prophète incroyablement peu motivé. Pas de préparation. Il n'y a pas eu de bouche ta ville à Ninive pour faire comprendre que les croyants avaient quelque chose à dire. Pas de grande campagne préparatoire, pas d'autorisation de la mairie, pas d'orchestre, pas de sono, très simple, pas de budget. Comment faire plus simple ? Et on en arrive à la phrase époustouflante. Aussitôt, les gens de Ninive croient à la parole de Dieu. Ils décident, trois petits points. Nous sommes devant un des plus grands miracles de toute la Bible. On n'a pas vu ça, aucun d'entre nous, à Épinal, à Nancy, à Mulhouse, à Paris, à New York, à Tokyo. Et pourtant, on en fait des efforts pour faire entendre l'évangile si important, si vrai, si beau. Qu'est-ce que ce texte nous dit ? Que Dieu est puissant et que le Saint-Esprit peut toucher les cœurs comme il veut, quand il veut. Jésus-Christ va dire, plusieurs siècles plus tard, dans un des chapitres, dans le chapitre où il y a un des versets les plus connus de toute la Bible, Jean 3, 16, dans ce chapitre-là, Jésus dit, l'Esprit souffle où il veut. Et Dieu peut faire qu'un prédicateur beaucoup moins préparé qu'un autre dise des mots que le Saint-Esprit va utiliser et des milliers de personnes vont être touchées. Et Dieu peut permettre mystérieusement qu'on se prépare à fond et qu'on utilise tous les moyens que l'on a, nous, entre nos mains, pour mieux faire entendre l'Évangile. Et si le Saint-Esprit n'agit pas, nous ne pourrons convaincre personne. Dieu est puissant. Il est celui qui peut toucher les cœurs, il l'a fait ce jour-là. Et vraiment, toute l'histoire est faite pour nous faire comprendre que Dieu est puissant. Pas de prophète aussi réticent que Jonas, pas de discours aussi court, aussi simple, aussi peu encourageant que le discours de Jonas. Et la ville entière a été touchée par la repentance. Oui, Dieu est puissant. L'Évangile nous le dit, il est celui qui peut calmer la mer. Il est celui qui peut guérir les paralytiques et pardonner les péchés. Mais il est celui, comme nous le voyons dans Jonas 3, qui peut changer les cœurs. Et nous le voyons aussi dans l'Évangile, un miracle extraordinaire qu'une troupe de théâtre SketchUp m'a fait redécouvrir, c'est Zachée. Et vous connaissez peut-être la formule amusante de SketchUp. Voilà comment le Saint-Esprit peut transformer un collecteur d'impôts en distributeur automatique. Là derrière, au-delà d'une formule amusante, il y a un très 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 grand miracle. Dieu a pu changer le cœur de Zachée. Et si vous aviez demandé à ses voisins quelles étaient les probabilités que Zachée change de style de vie, revoie sa copie, pense autrement, rembourse, la probabilité moyenne des voisins aurait probablement été très faible. Mais Dieu a transformé cet homme. Parce que Dieu peut transformer. Il nous faut donc aller vers lui. Troisième point, la porte ouverte de la repentance par la grâce. On reste encore un peu sur cette diapo. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces hommes ? Ils ont décidé, le roi aussi, de prendre des habits de deuil et de s'asseoir dans la cendre, symbole de l'époque, pour dire qu'ils reconnaissaient leur petitesse, leur indignité, qu'ils se repentaient. Diapo suivante. Le roi ordonne que tout le monde prenne cette attitude de deuil en criant vers Dieu de toutes ses forces. La porte de la repentance est ouverte pour tous, des plus pauvres aux plus riches, des moins connus aux plus connus. Le roi lui-même s'est levé de son siège pour s'habiller avec des habits de deuil et s'asseoir dans la cendre. La repentance, la vraie repentance, est accompagnée d'une détermination à changer. La vraie repentance est accompagnée d'une détermination à changer. Ils ont décidé qu'ils n'allaient plus être les mêmes. En entendant que Dieu était triste devant leur façon de vivre et que la colère de Dieu était sur eux, ils se sont repentis et ils ont décidé de ne plus vivre comme avant. Ils ont crié à Dieu de toute leur force et ils ont décidé d'abandonner leur mauvaise conduite. Que Dieu nous aide à avoir cette attitude tout au long de notre vie. Si certains dans cette salle n'ont pas commencé la marche chrétienne, que le Saint-Esprit vous parle, que la parole de Dieu vous touche, pour que vous compreniez à quel point il est tellement beau d'être au bénéfice de ce grand Dieu que Jonas a fait connaître aux Ninivites malgré son état d'esprit ce grand Dieu que Jésus-Christ est venu nous révéler. Et nous tous qui marchons en écoutant Dieu depuis des années, peut-être des décennies, réentendons que la seule vraie attitude pour nous approcher de Dieu, c'est la repentance et la détermination à le suivre. Et pourquoi tout cela est-il accueilli par Dieu? Parce que Dieu fait grâce. Et j'en viens à ces deux petits mots étonnants. Que dit le roi? Qui sait? Dieu changera peut-être d'avis. Il abandonnera sa colère contre nous et nous ne mourrons pas. Et je vous invite à méditer ces deux mots, maintenant et puis en rentrant chez vous. Le roi dit, je me repens, et il invite tout le peuple à se repentir pour tout le mal qu'ils ont fait, et il dit, qui sait? Dieu pourrait ne pas faire tomber sur nous sa colère. Est-ce que c'est un manque de foi? Non. Est-ce que c'est un manque de connaissance? Oui, on en sait beaucoup plus que lui. Jésus-Christ est mort sur la croix et ressuscité et nous offre le salut et nous pouvons prêcher, nous pouvons dire à nos amis que celui qui se repent de ses fautes est pardonné et que la colère de Dieu ne tombera pas sur lui. Mais je vous invite à quand même méditer ce « qui sait » qui est un des textes de l'Ancien Testament repris aussi par quelques textes dans le Nouveau Testament, qui nous décrivent Dieu comme on peut avec des mots humains en disant « et Dieu changea d'avis ». Dieu se repent du mal qu'il avait annoncé. Et je vous invite à méditer ces mots. Qui sait si Dieu ne pourrait pas changer d'avis? En comprenant que tout cela nous enseigne de façon étonnante la grâce. Je ne vous promets pas de vous dire tout ce qu'il y a derrière ces deux mots, qui sait. Mais je vous laisse une piste de réflexion. Derrière ces deux mots, il y a un enseignement très important concernant la grâce. Ce n'est pas parce qu'Étienne s'est repenti de ses péchés que Dieu lui devait le salut. Dieu me l'a offert. Mais derrière ce qui sait, il y a la grâce étonnante. Dieu n'est jamais obligé de faire grâce. Il a promis de le faire, mais il n'est pas obligé. Et l'attitude du roi est très intéressante et très juste. Nous savons que Dieu pardonne à ceux qui se repentent, mais comprenons que rien n'oblige Dieu, sinon qu'il s'oblige lui-même. La grâce n'est jamais, par définition, méritée. Et puis la grâce dépasse toute logique et tout automatisme. Quand je demande pardon à Dieu, je crois qu'il va étonnamment me pardonner. Parce qu'il a promis de le faire, parce qu'il a décidé de le faire, mais il aurait été tout à fait juste en ne le faisant pas. Il n'était pas obligé de considérer que Jésus-Christ était mort à ma place. Et il n'était pas obligé de m'offrir le salut qu'il m'a offert. Dieu est patient. Dieu est puissant. Nous pouvons toujours aller vers lui dans la repentance et la foi. Et je vous invite, en le reprenant dans l'autre sens, en concluant, à aller vers lui maintenant dans la repentance et dans la foi, dans la confiance, en nous souvenant que Dieu est puissant. S'il a pu créer un tel élan chez tous les Ninivites, il peut continuer à nous transformer. Dieu est puissant. Et puis courage, frères et sœurs, Dieu est patient. Repoussez toujours la voix de l'adversaire qui vous dirait « Écoute mon pauvre, écoute ma pauvre, c'est peut-être plus tellement juste de demander pardon à Dieu pour ça. T'as écoulé le quota. » C'est faux. Dieu a été patient avec Jonas, patient avec le peuple d'Israël pendant 40 ans. Patient avec les disciples, toute leur vie. Patient avec chacun d'entre nous jusqu'à aujourd'hui. Oui, allons, courons vers Dieu qui veut toujours nous accueillir. Allons dans la repentance et dans la confiance parce qu'il ne met jamais dehors celui qui vient à lui. Amen.